plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour, gringos et conchitas. Ravi de vous retrouver sur les chemins de l'insolite et de l'étrange. D'abord, une nouvelle de Jacqueline Sartène, L'Encrier, tirée de son recueil des histoires entre les murs de pierre sèche. Puis de Didier Van Coverlet, La dématérialisation de Jésus ou L'énigme du Saint-Suaire. L'Encrier. C'était un beau village que le village de l'Intac. Un beau village enrubanné d'une rivière aux courbes alanguies. Sur ses berges ombragées, on échangeait quelques banalités qui fleurissaient le quotidien. Tout était calme ici. Une vie paisible. Rien n'était venu troubler les jours qui s'accrochaient aux jours. Rien n'avait jamais cassé les maillons de l'existence jusqu'à ce jour de mai. Un mois si gai, si fleuri, où un fait a bouleversé ce petit bourg si tranquille. Voici un an, dimanche matin, on a retrouvé Sidonie, la couturière, étendue dans son salon, morte étranglée. Les policiers, les gendarmes, ceux de la région, et même venus les seconder, ceux du chef-lieu du département, tout ce beau monde a envahi les rues. Interrogatoire par-ci, interrogatoire par-là, l'enquête n'a jamais rien donné. Sidonie vivait solitaire, sans famille. Seules ses clientes venaient régulièrement dans sa minuscule maison située juste en face de l'école. Alors on a, peu à peu, oublié Sidonie et l'assassin. Les clés ont à nouveau été laissées sur les portes. Les fenêtres sont restées grandes ouvertes les chaudes nuits d'été. Les rues ont retrouvé leur éclat de voix. La vie a repris comme avant. Ce bourg, contrairement à beaucoup d'autres, avait conservé en grand privilège son école et son instituteur. Monsieur Pichon, l'instituteur était arrivé voici une dizaine d'années, précédé d'une réputation de bon pédagogue, de personne discrète. Il n'avait pas gardé de son enfance un souvenir émerveillé. Recueilli par une tante à la mort de sa mère, il n'avait jamais cicatrisé la blessure que l'injustice de la vie lui avait infligée l'année de ses 3 ans. Évidemment, sa tante ne le maltraitait pas, mais c'était des petits riens qui le blessaient, qui l'humiliaient lorsque, par exemple, elle ébouriffait sa tignasse rousse en chantant « Ma pauvre araignée rouge ». Il aurait voulu arracher ses cheveux frisés et cacher ses longues jambes maigres. En réalité, il n'était pas roux, de ce rouge qu'affectionnent de nos jours quelques jeunes en mal d'originalité. Non, des éclats cuivrés enflammaient sa chevelure fauve. Il traversait l'existence en se trouvant laid, mais il ne l'était point. Il se sentait à l'aise dès qu'il se trouvait dans sa classe au milieu de ses élèves. Ses mains ne l'embarrassaient plus. Il savait alors se servir de ses gestes et de sa voix. Son autorité était naturelle. Le mercredi, il se plaisait à venir respirer cette odeur pédagogique unique des salles de classe. Odeur de craie, de bois, de travail. La mairie lui avait attribué un logement de fonction au-dessus de la salle de classe. Ainsi, il restait à son bureau tard le soir pour préparer son programme du lendemain et corriger les cahiers. Il avait toujours eu des rapports difficiles avec les femmes. Elles le fascinaient et l'effrayaient à la fois. Il s'étonnait de pouvoir plaire à l'une d'elles. Il se méfiait, doutait de leurs sentiments, ce qui ne facilitait pas les relations. Certaines avaient partagé quelques mois sa vie, mais elles avaient fui devant les difficultés qu'il savait faire naître. Il vivait seul et s'était peu à peu accommodé de cette solitude. Il savait occuper son temps. Il mettait régulièrement de l'ordre dans les placards et rangeait la bibliothèque. Ce mercredi était le jour du placard de gauche. Justement, les encriers, qui ne servaient à rien depuis l'utilisation du stylo bille, allaient être remisés sur la plus basse des étagères. Des encriers inutiles, bien sûr, mais que M. Pichon ne se résolvait pas à jeter. Ils avaient tant servi. Tant de souvenirs se lavaient dans leur ventre. Il en saisit un au hasard. La pointe d'un papier dépassait de l'ouverture. Il tira et lut. « Merde pour M. Pichon !» Il sourit. « Nous sommes tous les mêmes. Ces encriers servent de réceptacle aux pensées secrètes, aux paroles interdites. » Et il eut ainsi quelques papiers. Brusquement, son visage pâlit, ses mains tremblèrent. Il en posa un sur la table, du revers de la main, il essaya de le défroisser et resta pétrifié. Puis une fébrilité s'empara de lui. Il examina rapidement tous les encriers, repoussant sans ménagement ce qui était vide et s'empressant d'extraire les papiers de ce qui en contenait pour les lire. Il se leva et se rassit comme épuisé. Il monta dans sa chambre, glissant un regard vers la maison d'en face comme pour chercher une lumière rassurante. La façade était sombre, bien sûr, depuis la mort de cette pauvre mademoiselle Sidonie. Il aurait tant aimé la voir penchée sur son ouvrage près de la lampe rouge qui faisait comme un feu dans la pièce. Il se laissa tomber en travers du lit sur le dos, fixa le plafond et remarqua une large toile d'araignée qui se tendait comme un fil de pêche dans le coin vers la fenêtre. Il éteignit la lampe et resta là, les yeux grands ouverts, entendit l'horloge de l'église sonner trois coups, pivota et garda sa position sur le dos, position qu'il trouvait d'ordinaire inconfortable. Toujours la même question. Comment Georges, car c'était bien Georges, il avait reconnu l'écriture et cette faute, ce T à j'ai vu, que maintes et maintes fois il s'était évertué à lui faire corriger sans y parvenir, comment Georges avait-il pu écrire cela? Monsieur Pichon allumait de temps en temps la lampe de chevet, reprenait le papier, relisait comme si un miracle, il ne croyait pas au miracle pourtant, mais dans ces cas-là, tout paraît possible, avait transcrit une autre phrase. Il attendait. Les lueurs de l'aube se glissèrent entre les persiennes, chassant la poussière de la nuit. Le premier rayon de soleil caressa la table où s'entassaient pêle-mêle livres et papiers. Six coups martelés le firent sursauter. « C'est l'heure », se dit-il. Il ne se sentait même pas fatigué malgré sa nuit sans sommeil. Il se doucha, se rasa soigneusement, mit sa belle chemise bleue. On aurait dit qu'il partait pour une cérémonie. Il déchira sans les relire quelques lettres entassées dans une vieille boîte à chaussures, les jeta dans la cheminée, s'accroupit et croqua une allumette. Les morceaux de papier se tordirent avant d'être dévorés par les flammes. Alors M. Pichon se releva, choisit sa casquette préférée, une casquette à carreaux qui lui donnait un petit air anglais. Il glissa dans son portefeuille le papier trouvé dans l'encrier. La porte s'ouvrit en gémissant et se ferma d'un coup sec. Il donna deux tours de clé. Jamais les ruelles de la vieille ville n'avaient paru aussi charmantes. Les fenêtres et les balcons fleuris libéraient des parfums légers. L'air du matin était frais. Tout semblait vouloir faire rebrousser chemin à M. Pichon. Mais enfin, il arriva. Il entra, il connaissait bien le commissaire dont les enfants avaient été ses élèves. Deux policiers, occupés à taper sur le clavier des ordinateurs, lui adressèrent un très aimable sourire. Alors, après une profonde inspiration, M. Pichon libéra la phrase qui l'étouffait. « C'est moi qui ai tué Mademoiselle Sidonie. » Tous les yeux du commissariat se levèrent et le fixèrent. Les bouches s'ouvrirent. On sentit passer comme un souffle de panique. « Monsieur Pichon est devenu fou. Vite, on lui tendit une chaise. Il était si pâle. Un tremblement agitait le papier qu'il tendait au commissaire. « Voulez-vous un médecin ?» lui murmura un policier. « Non. J'ai bien tué Mademoiselle Sidonie. » Et il raconta. Il raconta d'un coup, comme lorsqu'on ouvre les vannes d'un barrage et qu'un flot non maîtrisé s'engouffre par l'orifice. Il dit comment il saluait Mademoiselle Sidonie quand il l'a rencontrée. Elle n'était ni laide, ni belle, ni grosse, ni maigre, une personne quelconque en somme. Chaque soir, lorsqu'il arrivait dans sa chambre, il jetait un coup d'œil machinal par la fenêtre et il voyait Mademoiselle Sidonie penchée sur sa machine à coudre. Les premiers soirs, il disait « Tiens, Mademoiselle Sidonie a mis une robe bleue. » Ou bien « Elle est un joli rouge, la robe de Mademoiselle Sidonie. » Des remarques comme ça, un peu comme on dirait « Tiens, les lilas ont fleuri » ou bien « Les roses se fanent. » Il s'habituait à la présence de Mademoiselle Sidonie. Il n'était plus seul. Il se couchait en pensant à Mademoiselle Sidonie, sans éprouver le moindre désir pour son corps. Au fil des jours, sa présence lui devenait nécessaire, à vrai dire, indispensable. Dissimulé par un rideau à ramages, M. Pichon détaillait la couturière. Il avait tout de suite remarqué son cou, un cou de cygne long, animé d'un gracieux mouvement lorsque Sidonie penchait sa tête à droite, à gauche. Ses cheveux blonds relevés dégageaient la nuque où quelques mèches rebelles dessinaient comme des points d'interrogation. Ce cou le fascinait. Il avait même acheté une paire de jumelles. Il se postait derrière la fenêtre fermée et y restait là à contempler non pas Mademoiselle Sidonie, mais son cou, comme si cette partie de son corps ne lui appartenait pas et menait une vie propre. Il sentait monter en lui le désir de toucher cette peau blanche, de respirer le parfum qui devait s'en dégager, de dénouer le petit foulard de soie qui faisait une jolie faveur, comme un cadeau offert. Un soir, l'envie de se rapprocher de ce cou qui l'obsédait fut si forte qu'il posa ses jumelles, sortit, sonnant chez Mademoiselle Sidonie. Elle n'ouvrit que lorsqu'elle sut le nom du visiteur. Il trouva très rapidement un prétexte à sa visite. Sa huche à pain était vide. Mademoiselle Sidonie l'invita humblement à rentrer dans le salon. Elle lui offrit un petit vin de noix au goût râpeux et sucré à la fois. Un délice, observa-t-il. La présence de Mademoiselle Sidonie, debout devant lui, ne l'émouvait en aucune façon. Il remarqua des tableaux accrochés au mur et s'en approcha. Mademoiselle Sidonie reprit son travail qu'une cliente exigeait pour le lendemain. C'est alors qu'il vit ce cou, à portée de sa main, à portée de ses lèvres. Il se pencha et déposa un baiser avide sur cette peau diaphane. Mademoiselle Sidonie bondit, poussa un cri aigu de bête apeurée. Alors Monsieur Pichon serra violemment le petit foulard de soie. Le cri mourut en un hoquet. Il lâcha le foulard. Mademoiselle Sidonie tomba sur le tapis comme une poupée que l'on jette. Il reprit ses esprits, lava le verre, le rangea, essuya toutes ses empreintes, sortit en refermant doucement la porte, prenant soin de se servir de son mouchoir propre pour effacer toute trace. La rue était déserte. Après cette confession, M. Pichon paraissait épuisé. Les policiers reconnurent les détails qui se recoupaient invariablement. Alors, M. Pichon sortit de sa poche la feuille pliée, trouvée dans l'encrier, la tendit au commissaire. « J'ai vu l'assassin de Mademoiselle Sidonie. » « Qui a écrit cette phrase ?» interrogea le commissaire. « M. Pichon nomma Georges Sidoux, le petit du garde-champêtre. » Le commissaire dépêcha un policier pour aller chercher l'enfant, un gamin aux cheveux bruns, frisés, mal peignés, à qui la frimousse éclairée par de grands yeux noirs, intelligents, donnait un air de petit poulbeau. Le commissaire lui tendit le papier encore froissé par son séjour dans l'encrier. « C'est toi qui as écrit ces lignes ?»«
Ah oui, monsieur. »«
Peux-tu me dire qui est l'assassin ?»«
Ben, je ne sais pas, monsieur, j'avais écrit ça pour m'amuser. »
Monsieur Pichon se pencha en avant, s'accrocha au bureau. Il se retourna et présenta ses poignets au commissaire. L'inventivité d'un garçon révéla l'affaire.
Time you lose and love just a question of fact. One Much too young to know me, but if she had the time, I could have told her how loved I was one night. But she just goes by, it's cold tonight. For the season. It's cold tonight. I'd like to have someone here, just someone to talk with. She wanted a chat, but I didn't. She left. How could I have foreseen? Where are they now? Sometimes frightened, I listened past the seconds of our life. Was it a reason to waste them? Was it a reason to despise? It's cold tonight. It's cold tonight. So cold. Well, it's the season.
Après cette petite pause musicale, poursuivons par une enquête de Didier Van Coverlert, la dématérialisation de Jésus ou l'énigme du Saint-Suaire. Ou si vous préférez, quelques réflexions énergétiques sur le linceul de Turin. Je cite l'auteur. « Quand j'ai écrit l'évangile de Jimmy, je pensais avoir inventé tout ce qui concernait l'ADN trouvé sur le linceul de Turin, ce linge funèbre, attribué à Jésus sous le nom de Saint-Suaire. Après avoir lu le roman, les généticiens et les spécialistes du Vatican m'ont contacté. En m'interrogeant sur les connaissances qu'ils me prêtaient indûment, ils m'ont fourni de telles informations que j'ai eu envie d'en savoir encore plus. Je ne reviendrai pas ici sur les controverses anciennes et les découvertes récentes autour de cette relique. Si ce n'est pour éclairer les toutes nouvelles hypothèses formulées par des scientifiques en 2014. Alors rappelons d'emblée que cette pièce de lin de 4,36 m sur 1,10 m, repliée dans le sens de la longueur sur le corps qu'elle contenait, comporte à la fois une empreinte et une image. D'une part, l'empreinte sanguine d'un homme flagellé, crucifié, le front couronné d'un casque d'épines, le flanc percé d'un coup de lance. Et d'autre part, l'image tridimensionnelle de ce corps, produite par une roussirure de certaines barbelures des fils de lin, en dehors des zones imprégnées par le sang. Cette image s'est imprimée à plat, sans les déformations qu'aurait provoqué la présence d'un corps. Or, l'Institut médico-légal de Turin déclare que ce corps a séjourné une trentaine d'heures dans le linceul, pas davantage, puisqu'on ne relève aucune trace de décomposition. Mais il certifie aussi que l'on a retiré, sans le moindre arrachement des fils de lin, ni des caillots de sang, ce qui, vu la coagulation rigoureusement, impossible. Et pourtant, tous les examens le confirment. L'image s'est imprégnée dans le linge alors qu'il était vide. C'est ce que les physiciens, lors de l'étude pluridisciplinaire du linge en 1978, ont appelé une impression retrait sans contact.
certes. Il était plus reposant de se dire que cette image christique n'était que de la peinture, comme tentait encore de nous faire croire M. Henri Broche en 2001. Mais c'est faux. Les quelques pigments de couleur retrouvés ça et là dans le lin proviennent des tableaux que certains peintres, autorisés à reproduire l'image du suaire, appuyaient une fois sec sur le tissu pour conférer à leur œuvre une petite plus-value de sainteté, c'est tout. Les microscopes et les chercheurs, brave Monsieur Broche, savent différencier aujourd'hui les traces de peinture d'une oxydation de la cellulose monochrome et superficielle sur une épaisseur de 40 micromètres. Adieu votre jolie théorie d'un faux médiéval fabriqué par un vétéran des croisades pour faire du pognon sur le dos des naïfs. Elle était crédible sur le plan des mentalités humaines, mais c'est tout. Cela dit, si le suaire avait disparu lors des différents incendies, inondations, attentats qu'il a subis tout au long de son histoire, c'est votre version aujourd'hui qui lui survivrait. Hélas pour vous, Monsieur Broche, il résiste. Comme l'image de la Vierge de Guadeloupe apparue sur le vêtement d'un Indien aztèque en 1531, ce linceul illustré était, pour reprendre une expression du professeur André Marion, un objet dormant, destiné à parler à la science le jour où des instruments et des techniques seraient capables de comprendre sa nature, d'explorer ses mystères. Chaque découverte soulève de nouvelles questions, sans jamais délivrer de réponse unique qui refermerait le débat. Alors disons de suite, on n'est pas obligé de croire en la résurrection quand on examine le linceul. On ne peut que constater ce qu'il nous dit, c'est-à-dire on ne peut que réfléchir. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les chercheurs qui ont fait certaines des découvertes les plus marquantes sur la relique étaient des agnostiques, comme le professeur Yves Delage de l'Académie des sciences, ou le professeur André Marion, directeur de l'Institut d'optique d'Orsay. Ces incroyants qui pensaient, a priori, trouver de l'épreuve que le suaire était un faux explicable, ont été amenés à démontrer le contraire par honnêteté scientifique. De même, le botaniste Avinoam Danin, de l'Université hébraïque de Jérusalem, qu'on peut difficilement soupçonner de vouloir prouver en tant que juif la dématérialisation de Jésus, a démontré par la présence de pollen et de fleurs caractéristiques, certains ayant disparu à une période précise, que le tissu de lin ne pouvait provenir que de Jérusalem avant le 8e siècle. Et c'est du 1er siècle que date la technique de filage et le type de pliure. On objectera qu'il y eut d'innombrables crucifiés à cette époque. Comment prouver qu'il s'agit de Jésus ? Un seul est décrit dans les textes comme ayant porté une couronne d'épines, dont les traces figurent sur l'empreinte sanguine du linceul. Tous ces détails, trop beaux pour être vrais, ont alimenté un temps l'hypothèse rationaliste d'un faux médiéval fabriqué à partir d'un vrai cadavre de crucifié mis dans un linge du 1er siècle. Mais le carbone 14, outil de datation inapproprié à un tel tissu, comme l'avait certifié son inventeur William Libby, était le seul à faire remonter le linge au Moyen-Âge. On a scientifiquement établi depuis que cette datation avait été faussée par divers éléments. Résultat, là où le professeur Delage concluait en 1902 qu'il y avait à peine une chance sur 10 milliards que ce linceul ne soit pas celui de Jésus, Giulio Fanti, du département d'ingénierie mécanique de l'université de Padoue, arrive aujourd'hui à une chance sur 10 suivie de 100 zéros. Jésus, donc, se serait désintégré en laissant son image dans le tissu. Nous voilà en pleine science-fiction, rigolent les sceptiques. Mais c'est précisément ce que nous raconte ce bout de tissu. Une fiction, c'est-à-dire une vue de l'esprit devenue réalité au service de la science. Car le Saint-Suaire n'est pas là pour alimenter la foi, laquelle est un choix spirituel et tout à fait personnel. un cheminement intérieur et non une soumission à de quelconques preuves matérielles. En revanche, ce linge a permis à la recherche scientifique des avancées considérables. « Cette relique est un défi pour l'intelligence », répétait Jean-Paul II. Un défi qui ne cesse d'être relevé et de faire progresser notre connaissance des lois de la physique quantique et de la nature humaine. J'ai bien dit de la nature humaine, eh oui. Ce corps qui, à en croire des médecins légistes, des biologistes et des physiciens, se serait dématérialisé, n'avait rien de spécial. Sang de groupe AB, identifiant une mère et un père biologique, ADN de formule chromosomique XY d'origine juive moyenne orientale. Ça colle. Mais quoi d'étonnant à cela? Jésus, si c'est bien lui, qui a marqué ce textile, a toujours revendiqué sa complète incarnation humaine. Ce n'était pas de son vivant un demi-dieu holographique, un mutant de l'Atlantide ou un extraterrestre, n'en déplaise aux différents gourous qui disputent sa paternité à l'Église. Alors, comment cet homme de chair et de sang ordinaire a-t-il pu se désintégrer en nous laissant une empreinte physiologiquement réaliste et une image techniquement irréalisable? Pour cela, il faut comprendre un petit peu la physique. C'est l'énergie qui crée la matière, affirment aujourd'hui les physiciens quantiques. Elle pourrait donc la décréer sans que cette énergie se perde. Elle se transformerait simplement selon le principe cher à Lavoisier. Mais que deviendrait-elle? Je devrais m'arrêter là, car nous en arrivons au concept de résurrection qui, lui, ne concerne plus la science, mais uniquement la foi. Quoique, on sait que dans les accélérateurs de particules, matière et antimatière, s'annihilent en émettant des photons de haute énergie, c'est-à-dire de la lumière. On croyait jusqu'à présent le contraire impossible en pratique. Mais des chercheurs de l'Imperial College London viennent de réussir cet impossible, fabriquer de la matière à partir de la lumière. Ils ont publié leurs travaux dans la revue Nature du 18 mai 2014. L'expérience, décrite en français dans le magazine Science et Avenir, consiste à provoquer une collision entre photons, collision qui aboutit chaque fois à la formation d'un électron et d'un positron, son antiparticule. À travers un petit tube en or fermé, percé d'une fente sur le côté, pénètre un laser ultra puissant. C'est là où survient la collision entre les photons du laser, permettant ainsi la formation de 100 000 paires d'électrons-positrons. Einstein, de son côté, avait postulé à son époque, à travers sa formule E égale mc2, qu'énergie et matière sont deux entités équivalentes, mais la matérialisation à partir de l'énergie demeurait une vue de l'esprit. Une fois de plus, on vient de prouver qu'il avait raison. Dématérialisation, rematérialisation. Si Jésus ressuscité interdit à Marie-Madeleine de le toucher, est-ce parce qu'il n'est encore qu'un dérivé de la lumière laser, un hologramme? Il ne reprendra sa pleine matérialité que quelques heures plus tard, invitant alors ses apôtres à le toucher et à le nourrir. Tel que l'aperçoivent les non-chrétiens, la fiction des évangiles serait-elle validée par les dernières avancées de la science? Revenons-en à l'image du linceul, à cette roussirure monochrome de certaines fibres sur 40 millièmes de millimètre. On n'était jamais arrivé à reproduire en laboratoire un tel phénomène. Ni la décharge de protons roussissant un tissu de lin dans un accélérateur de particules, le professeur Inaudo, faculté des sciences de Montpellier. Ni le rayonnement d'électrons du physicien Eberhard Linder n'était parvenu à obtenir un effet correspondant vraiment à l'aspect et aux propriétés de l'image du linceul. Seuls des professeurs de laser thérapie y sont arrivés en 2005. Gaston Sillet, de l'Université de Rome, Parmé-Liège, et Jean-Paul Roca, Université de Nice-Sophia-Antipolis, En utilisant un laser CO2 d'une puissance de 1 watt, on réussit les premiers à provoquer sur une trame de lin analogue au linceul une roussirure de 40 micromètres. Même profondeur d'impression, même couleur, et sans traverser le tissu. Donc, même caractéristique. Informé en priorité de cette découverte par ses auteurs, à cause de mon étude sur le linceul et du film document que j'en avais tiré avec le réalisateur Yves Boisset, j'ai reproduit l'expérience avec ce laser sur France 2. Au cours du journal de 20h, je tenais entre mes mains, moyennement rassuré, le morceau de lin où le docteur Sillet a recréé avec son laser l'effet de roussirure visible sur la relique. Ce qui n'a pas empêché en mai 2013 Paolo Di Lazzaro, patron du centre de recherche italien l'ENEA, Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement durable, d'annoncer qu'il avait réussi à reproduire pour la première fois l'impression du linceul de Turin au moyen de laser. Son compatriote Giulio Fanti, qui en 2008 avait pris de vitesse Gaston Sillet en publiant dans une revue scientifique ses travaux sur la simulation laser de l'image, n'a pas dû apprécier d'être dépossédé de la primeur qu'il lui avait empruntée. Gaston Sillet, lui, ne s'est pas formalisé. C'est un personnage très étonnant d'ailleurs. Chirurgien dentiste à la retraite, spécialiste émérite de l'utilisation du laser en cancérologie, ce Niçois ne s'empresse jamais de publier ses découvertes après les avoir exposées en public, laissant à d'autres sommités, mieux éclairées que lui, par le feu des projecteurs, le soin d'en tirer profit dans l'intérêt même de ses découvertes. J'ai rarement rencontré un tel mélange de talent scientifique et d'humilité chrétienne. Cela étant, le directeur de l'ENEA, Paolo Di Lazzaro, sait parfois se montrer modeste. Il dit ceci. Il est impossible, aujourd'hui, de reproduire l'image entière du suaire en utilisant un laser à excimère unique, reconnaît-il, car cette puissance, 34 milliards de watts, ne peut être produite par aucune source de lumière construite à ce jour. Il oublie de préciser néanmoins ce que Sillet et moi avons souligné 8 ans plus tôt sur France 2. Il n'a obtenu comme nous qu'un tracé laser. Or, il n'y a aucun tracé sur le linceul. Uniquement ce que, par analogie, on pourrait appeler des pixels. Pour reproduire à l'identique l'image, explique Gaston Sillet, il faudrait des milliards de lasers à tir orthogonal agissant en une nanoseconde. Ce qui semble s'être produit, en fait, dans les fibres du linceul, c'est que les physiciens nomment une photolyse éclair. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pour bien comprendre, ce terme désigne ce qu'on a observé à Hiroshima le 6 août 1945. La surpuissante luminosité dégagée par la bombe nucléaire a généré un flux de photons de haute énergie, rappelle Sillet, un flash, qui a dématérialisé des dizaines de milliers d'êtres humains en laissant souvent l'image de leur silhouette incrustée sur les pans de murs restants. Maintenant, question. Mais comment, dans un tombeau de Jérusalem, 19 siècles avant l'invention du laser, une telle image aurait-elle pu se former toute seule? Eh bien, elle s'est formée de l'intérieur. À partir des travaux du physicien allemand Fritz Albert Popp, Gaston Sillet a mis en évidence, à l'automne 2014, un mécanisme de fabrication génétique de l'image auquel jusqu'alors personne n'avait pensé. Notre corps, en effet, émet de la lumière par les noyaux de l'ADN. Une lumière de faible intensité, précise Sillet, mais suffisante pour établir, par exemple, un diagnostic différentiel en cancérologie, car l'émission de cette lumière est différente selon qu'il s'agisse de cellules normales ou de cellules pathologiques. Et cette lumière, à la différence de la lumière solaire ou électrique, est de nature cohérente, monochromatique et unidirectionnelle, c'est-à-dire la définition même du laser. Chacun des noyaux de notre ADN donc émet une lumière laser naturelle. C'est elle qui sert de moyen de communication entre nos cellules, d'après les travaux du docteur Marco Bischoff, président de l'Institut international de biophysique de Neuss, en Allemagne. De là viendraient ces milliards de pixels formant l'image du supplicié. Une énergie colossale qui, à ses yeux, pourrait expliquer la photolyse éclair du matin de Pâques. Là, je l'avoue, j'ai un peu de mal à digérer le parallèle. Entre le fait d'émettre une lumière intérieure et celui de se dématérialiser, il y a quand même une petite marge. Où est l'énergie nécessaire aux désintégrations d'Hiroshima? Oui. Où est-elle, cette colossale énergie? C'est là que le docteur Xie a recours à une hypothèse encore plus audacieuse. La transfiguration. Il s'agit, vous savez, de ce curieux épisode des évangiles où le Christ, selon les écrits, sur le mont Tabor, 40 jours avant la passion qu'il avait prédite, a montré à ses disciples que son corps pouvait rayonner d'une lumière insoutenable. Une lumière préfigurant l'état physique annoncé aux chrétiens pour leur propre résurrection, précise Wikipédia. Le théologien byzantin Maxime le Confesseur, lui, écrit au 7e siècle « La transfiguration nous apprend à discerner la présence du divin dans l'épaisseur de l'humain, à ne pas oublier la dimension corporelle du Christ transfiguré, cette lumière qui éclaire de l'intérieur toute la réalité humaine de Jésus. » En d'autres termes, Jésus aurait chargé ses batteries avec les neutrinos du rayonnement solaire en prévision de la gigantesque émission de laser qui inscrirait la lumière de son ADN dans le tissu pendant la désintégration de son corps. Hypothèse certes audacieuse. Alors ce n'est pas religieusement correct, mais si l'on en croit les travaux de Pope et Bischoff, ce serait génétiquement concevable. À mon humble niveau, je me contenterai de relever une coïncidence qui, sans bien sûr l'étayer d'un point de vue scientifique, ponctue cette hypothèse avec une douloureuse insolence. Depuis le 5e siècle, les chrétiens fêtent la transfiguration le 6 août, le jour même où la première bombe atomique, en 1945, allait imprimer dans les murs d'Hiroshima l'image des humains sacrifiés. Mais bon, pour des raisons idéologiques ou religieuses, on peut très bien oublier, réfuter ou feindre d'ignorer tout ce que je viens d'écrire. Si l'on préfère se raccrocher à l'idée que cet ADN de lumière n'est que de la peinture médiévale destinée à arnaquer le gogo, ce n'est pas plus grave que lorsqu'on refusait que la Terre tourne autour du Soleil. Parce que cela offensait Dieu. Tant qu'il n'y a pas d'homme, mort d'homme au nom d'un dogme, ça n'empêche pas la Terre de tourner, évidemment. Ni les scientifiques de faire leur boulot sur le plus fantastique objet de recherche qui existe dans le monde, pour reprendre les termes de l'agnostique professeur Marion. Ni chacun d'entre nous d'entretenir sa petite lumière intérieure, au cas où. Alors après, moi, j'ai pas de recette comment recharger ses batteries. Ça, c'est un autre mystère. Voilà, vous étiez bien sur les ondes de CFM à l'écoute d'histoires insolites et extraordinaires, l'émission au plus profond des ondes. Et j'aurai le plaisir de vous lire d'autres histoires la semaine prochaine. Bye bye.
See the blind man shooting at the
tall. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been hit, oh, by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for I've been here.